Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on replonge en 2007, plus précisément le 22 avril. C'est fascinant parce que l'extrême droite perd soudainement 1 million d'électeurs.
Oui, ils ne se sont pas volatilisés.
Exactement. Ils ont été absorbés, captés, avec une précision redoutable. La question est de savoir si ce premier tour, c'est vraiment le triomphe d'une stratégie de polarisation classique orchestrée par la droite, ou bien si c'est la véritable fracture du système bipartite avec l'émancipation du centre. Pour moi, c'est clair. On observe un triomphe tactique absolu de l'ingénierie électorale classique.
Eh bien, je vais m'inscrire en faux, parce que ce triomphe apparent, il cachait une faille structurelle majeure. Le vrai séisme, ce n'est pas tant le score de la droite, c'est l'émergence d'un centre qui, pour la première fois, refuse l'alignement automatique.
Je vois. Mais parlons de cette fameuse ingénierie politique, si vous le voulez bien. Nicolas Sarkozy n'a pas juste mené une bonne campagne. Il a littéralement théorisé le siphonnage.
Le siphonnage du Front National, on s'entend.
Voilà, en s'appropriant chirurgicalement le vocabulaire de ses adversaires, il a imposé des mots-clés, la rupture, l'identité nationale, la valeur travail, la sécurité. Ça a asséché le réservoir de Jean-Marie Le Pen, tout en offrant une crédibilité gouvernementale à ses thèmes.
C'est vrai que Le Pen est tombé à 10%.
Absolument. Un score de plus de 31% pour Sarkozy qui écrase la concurrence. Donc on voit bien que ça a fonctionné.
La manœuvre est efficace, certes, mais à quel prix au fond ? Parce qu'en tirant le centre de gravité de la droite aussi loin vers un discours sécuritaire et populiste, il a mécaniquement créé un vide béant au centre de l'échiquier.
Un vide que François Bayrou a rempli.
Exactement. Et 7 millions d'électeurs ne se réveillent pas soudainement centristes par hasard. C'est un mouvement de rejet viscéral face à cette hyperpolarisation. D'un côté, l'homme de l'ordre assumé, et de l'autre, la femme de l'écoute revendiquée avec Ségolène Royal.
Ah oui.
Bayrou a vraiment capitalisé sur cette angoisse d'une radicalisation du discours public.
Je comprends votre point. Mais attendez, si ce vide au centre a tout bouleversé, comme vous le dites, comment expliquez-vous le casting final ?
C'est-à-dire ?
Eh bien, le 22 avril, au soir, on retrouve le duel le plus classique de la Ve République, la gauche contre la droite. Le système bipartite a parfaitement résisté, en fait.
En apparence, oui.
Sarkozy a délibérément sacrifié son flanc centre-droit pour récupérer massivement les classes populaires. C'était un calcul mathématique et il a cadenassé l'élection.
Le duel a lieu, je vous l'accorde, mais le système a tremblé de l'intérieur. Imaginez la panique au siège de l'UMP et du PS ce soir-là. Les règles avaient fondamentalement changé.
La panique, vraiment?
Ah mais totalement. Ségolène Royal, qui sortait d'une primaire inédite, réalise d'un coup que ses réserves de voix traditionnelles ne suffisent plus. Elle est obligée d'aller chasser sur les terres de Bayrou. Ce bloc de plus de 18%, il paralyse littéralement les vieux états-majors.
C'est vrai qu'elle a dû faire quelques contorsions.
C'est ça, le centre n'est plus un partenaire passif, il devient le maître de l'horloge.
Oui, enfin, je ne nie pas la fébrilité des appareils politiques. Mais regardez le rapport de force réel. En verrouillant l'électorat populaire, Sarkozy a mené une guerre d'usure. Il a rendu caduque toute alliance institutionnelle pour la gauche. La stratégie de la droite a forcé ses adversaires à se contredire. Sauf que cette stratégie se heurte à un acte fondateur inédit. Dès le lendemain, Bayrou refuse catégoriquement de donner une consigne de vote.
Ce qui a surpris pas mal l'observateur.
Exactement. Historiquement, le centre servait de force d'appoint, une sorte de roue de secours pour les partis traditionnels. En refusant de choisir, il casse le contrat tacite du bipartisan. Il prouve que ses voix sont indépendantes et surtout qu'elles échappent désormais aux injonctions des grands partis.
Vous décrivez ça comme une libération. Moi, j'y vois plutôt un aveu d'impuissance, en fait.
Un aveu d'impuissance ? Bah oui, refuser de choisir, c'est finalement laisser la stratégie de polarisation l'emporter. Nicolas Sarkozy n'avait plus besoin de faire de concessions majeures à un centre éclaté. L'aile droite réclamait de toute façon d'autorité.
C'est une erreur de ne regarder que le résultat comptable, à mon avis. L'incertitude est définitivement injectée dans la machine institutionnelle à partir de ce moment-là.
Donc vous pensez que la certitude des transferts de voix s'est brisée pour de bon ici ?
Absolument. Ça préfigurait une redéfinition totale de l'espace politique.
C'est passionnant, parce qu'on voit bien la tension au cœur de cet événement. D'un côté, une ingénierie électorale implacable, capable d'absorber ses extrêmes par triangulation.
Et de l'autre, la mutation d'un centre servile en un bloc imprévisible qui commence à dicter ses propres conditions. Les structures anciennes tenaient encore debout sur la photo du second tour, c'est vrai, mais les fondations étaient profondément lézardées.
Tout à fait. C'est ce qui rend l'analyse de ce scrutin si riche. La frontière entre la maîtrise absolue du système et le début de son délitement est vraiment infime. C'est à vous désormais d'en tirer vos propres conclusions sur la force qu'il a véritablement emportée ce jour-là.